Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, surtout aujourd'hui, parce que j'ai la joie d'accueillir Guillaume Garbe. Bonjour Guillaume.
Bonjour Anne-Marie, bonjour à tous.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de notre partenariat habituel avec l'Institut européen des jardins et du paysage. Et vous, vous habitez Carneville.
C'est ça, un petit domaine dans le fin fond du Val-de-Serre, entre Cherbourg et Barfleur.
Alors, ce Nord-Cotentin, c'est un endroit d'exception. Et moi, bon, je vous ai rencontré, hein, on s'est vu justement à l'Institut européen. Et d'habitude, quand on voit les propriétaires de beaux domaines comme le vôtre, il y en a beaucoup en Normandie, on voit des gens qui sont un peu grognons, un peu bougons. Ils ont un patrimoine, c'est lourd, ils sont investis d'une charge, c'est envahissant. Alors vous, pas du tout. Honnêtement, quand je vous ai vu, j'ai eu l'impression, en vous rencontrant, que l'histoire s'était écrite dans l'autre sens. Alors, vous allez nous dire, j'ai l'impression que c'était le lieu qui vous avait happé, et c'est comme dans les contes de fées. C'est le château qui a décidé un jour de vous prendre et de faire de vous un prince. Alors, êtes-vous envoûté ?
Alors, bah oui, complètement, parce que je pense que au-delà même du rythme de la passion, il est vrai que à la défense de tous ces propriétaires qui peuvent parfois devenir un petit peu bougons, comme vous l'avez dit, c'est que c'est un type de propriété, les châteaux, qui n'hésitent pas à vous rentrer dedans pour vous confronter à vos propres limites. Alors, quand ça devient un choix, ce qui est mon cas, puisque je n'ai pas hérité du château, je l'ai acheté en 2012, c'est un choix qui a été fait en pleine conscience. Alors, pas forcément, je mesurais pas forcément l'impact sur la vie que pouvait représenter la gestion d'un monument comme celui-ci, mais je dois dire que chaque seconde, chaque minute, chaque journée et chaque année passée dans ce château m'ont appris tellement autant sur moi-même que sur le lieu, qu'en fait je peux ne lui dire que merci, quoi. Voilà.
Alors, qui étiez-vous avant de tomber amoureux du château?
Bon, j'ai toujours été un petit peu fou, hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui détermine tous les passionnés, que ça soit pour le patrimoine ou autre chose. En tout cas, quand on est passionné et sans raison, et qu'en plus, on a peut-être le tort d'être optimiste à un stade pathologique, on n'a plus aucun frein qui va venir nous limiter dans les engagements et les responsabilités. Non, mais plus sérieusement, en fait, voilà, moi, depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours été passionné par les châteaux. Ça fait 3 générations dans les familles qu'on est antiquaire, donc je dirais qu'il y a quelque chose qui est passé dans le sang. Mais on n'était pas du tout issu d'un milieu de château, vraiment pas du tout. Et je peux vraiment dire qu'à l'âge de 14 ans, avec mon père, on a eu une rencontre avec le château de Carneville. C'est vraiment une rencontre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce grand bâtiment, ce tas de pierres bien rangées au bout de l'avenue. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez bien sûr le logis principal, il y a toutes les dépendances autour qui sont des témoins de différents siècles, et puis il y a surtout le domaine qui s'associe avec ça. C'est-à-dire qu'un château, ce ne sont pas que des bâtiments, c'est aussi le domaine, donc le jardin, le parc paysager et les terres agricoles qui sont autour. Et je dois avouer qu'à Carneville, ça forme véritablement un équilibre, on va dire, qui ne fait que d'inspirer, en fait. Vraiment, c'est une grande inspiration. Et la responsabilité, je dirais, en tant que propriétaire, parce que j'ai beau aujourd'hui avoir 29 ans, j'ai vraiment pas vu l'achat de ce château comme une arrivée, comme une concrétisation et une fin en soi. Je l'ai vraiment vu comme le point de départ, comme le début d'une aventure. Alors bien sûr, une aventure patrimoniale, mais aussi une aventure humaine. Parce que ça, dès le départ, j'ai absolument tenu à ce que ce lieu soit partagé. Alors aussi bien pour le public, les visiteurs, nous ouvrons le parc au public, on a une salle où on accueille des mariages, on a des gîtes, etc. Mais on travaille en grande collaboration avec l'association des Amis du Château, qui compte plus de 300 adhérents, dont des membres bien actifs. Et on a créé au sein de cette association des comités de travaux, notamment un comité d'éco-gestion du parc, un comité événementiel, un comité
Attendez, qu'est-ce que c'est éco-gestion du parc?
Alors, l'éco-gestion du parc, c'est puisqu'en fait, le domaine du château, pour faire un parallèle, en fait, le château, dans tous les travaux qu'on est en train d'y faire actuellement dans notre lutte contre la mérule, qui est un champignon qui mange le bois.
Ah oui, vous avez eu la mérule.
Voilà, on a la mérule dans le château.
Ah oui.
Sur plus de 1000 mètres carrés. Donc, on a dû faire véritablement un diagnostic sanitaire et historique du château pour pouvoir entreprendre les travaux de restauration de la façon la plus juste possible. Et comme on a bien avancé sur cette étape du chantier du château, on est en train de faire exactement la même chose sur le domaine, sur le parc, c'est-à-dire un état sanitaire du parc. On a la chance d'avoir de très nombreuses zones écosystémiques différentes, c'est-à-dire qu'il y a des zones humides, il y a des zones sèches, il y a des prairies, il y a des sous-bois. Et le comité d'éco-gestion du parc, en fait, a véritablement valeur de conseil pour la gestion de ce domaine-là, c'est-à-dire le respect des zones humides, le respect des sous-bois, un entretien le plus à la fois minimal, mais également en grand respect envers ce qu'il y a déjà en place dans un écosystème qui, de base, lui-même est très riche. Et donc l'avantage de l'association des Amis du Château et des différents comités qu'on a créés autour de ça, c'est que des personnes sachantes, comme par exemple certains botanistes ou certaines personnes qui ont eux-mêmes l'habitude d'entretenir des grands domaines, apportent leur savoir-faire au château pour qu'on puisse avancer main dans la main. Et le seul et unique intérêt commun, c'est de tenir cette maison et son domaine dans la version la plus équilibrée et responsable qui soit.
Alors, comme c'est ouvert à la visite, ce serait intéressant que vous nous disiez un peu quelle est la surface, le temps que prend cette visite et ce qu'on a la joie de voir, qui est si bien protégé.
Oui, alors en fait, pour l'instant, la partie qui est ouverte au public dans le domaine est à peu près sur 10 hectares, c'est-à-dire qu'il y a 7 hectares de parc et l'ensemble des bâtiments couvre 2 hectares en tout avec les cours. Et donc là, il y a véritablement possibilité de passer de chambre verte en chambre verte, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par une balade en sous-bois, plutôt sauvage, avec des très beaux cours d'eau, un étang de presque un hectare. En ce moment, d'ailleurs, il y a tous les rhododendrons qui sont en fleurs, qui sont vraiment très jolis.
Oh là là.
Il y a également la partie de l'arboretum, où là, en fait, on peut véritablement faire le tour du monde avec les espèces végétales, que ce soit des cornouillers, des séquoias gigantis, une collection d'érables, des pins de Volémie, pins de Norfolk, énormément de choses différentes. Et il y a également, comme je dirais, on l'attend dans le parc d'un château, le jardin architecturé, c'est-à-dire vraiment la partie du jardin qui est au pied du château, où là vous avez une roseraie de 600 pieds. Il y a également une collection d'iris qui est en pleine fleur en ce moment, qui est très agréable. Il y a le jardin symétrique sur à peu près un hectare, ce qu'on appelle le jardin à la française, qui est au pied de la maison, où là vous avez donc les ensembles symétriques, le conservatoire d'Hydrangea, la roseraie, les perspectives qui sont aménagées, qui dominent toute la vallée des moulins, qui est dans le creux du Val de Serre. Et lorsqu'on est sur le perron du château, on peut même voir la mer au bout de cette forêt.
Ah oui.
En fait, voilà, c'est vraiment, je dirais qu'en fait, sur le parc du château de Carneville, on trouve un petit peu tout ce qu'on peut attendre, aussi bien pour une campagne du Val de Serre que pour le parc d'un château du XVIIIe siècle. Vous avez aussi bien, et ça se lit d'une façon extrêmement intime et extrêmement poétique, vous avez les parties un peu sauvages, vous avez les parties de sous-bois, mais vous avez aussi les parties du jardin architecturé, où là, évidemment, l'attention de l'entretien est tout à fait particulière. Il y a 2,5 km de haies, que ça soit des charmes, des ifs ou des buis, que l'on taille au cordeau, etc. Il y a ces parterres de roses qui vont avoir différents temps de floraison, les collections d'hydrangea et d'hortensia qui apporteront d'autres temps d'intérêt en fonction de l'évolution des saisons. Il y a vraiment ce qui s'écrit en fait une balade entre la poésie de l'aménagement romantique du 19e siècle, mais également le côté très architecturé et esthétique des jardins classiques français du 18e siècle.
Donc cet espace qui me semble très beau et très attirant a toute une histoire, parce que les plantations ont dû se succéder dans le temps. Il y a eu une volonté des propriétaires depuis l'origine ?
Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on remet vraiment à plat toutes les connaissances que l'on pense avoir d'un point de vue historique. C'est-à-dire que vous savez, tout ce qui est connaissance sur des lieux de patrimoine, il y a toute une partie qui se passe en tradition orale. Et donc, qui peut soit s'édulcorer ou s'atténuer au fur et à mesure des générations. Là, on profite de la reprise du château et du parc pour mettre à plat toutes ces connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve d'ailleurs des plans faits par les ingénieurs du roi Louis XV, un plan fait en 1764 et un plan fait en 1770. Ces plans, ils ont été faits par la volonté du roi pour assécher les marais de Briva et Tolva qui traversent le parc. Donc assèchement pour des raisons sanitaires, hein, comme on fait partout en France depuis le règne de Louis XIV. Et ce qui est très intéressant en fait sur ces plans qui ont été faits par le roi, par les ingénieurs du roi, c'est que sur le plan de 1764, le château et ses bâtiments ne sont figurés qu'au milieu de parcelles cadastrales, sans aucun aménagement paysager. Par contre, sur le plan de 1770, là, le principe de l'aménagement paysager est véritablement abouti. Et c'est d'ailleurs intéressant puisqu'on se rend compte que le château est placé juste à l'intersection d'une croix grecque, c'est-à-dire une croix qui a les quatre branches de la même longueur, et le jardin s'articule autour de ces quatre espaces.
Ah,
lorsqu'on
oui.
voit aujourd'hui des photographies aériennes du domaine, on se rend compte que sa structure, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et donc, notre but, en fait, aussi bien pour le partage de la maison que pour son entretien, c'est de valoriser ces aspects et de les rendre très pédagogiques pour que chaque visiteur puisse cerner, bien sûr, l'aspect esthétique en première lecture du domaine, mais également tout son aspect historique qui est extrêmement riche et instructif.
Bon, ben, on a hâte d'y aller. Donc, maintenant, c'est rouvert.
Oui, voilà, on a pu ouvrir. Alors c'est vrai qu'avec ce contexte un petit peu particulier, il y a certaines contraintes qui se mettent en place, mais ce qui compte avant tout, c'est que les gens puissent venir respirer à Carneville, reprofiter un petit peu de l'air pur, et se reconnecter avec eux-mêmes et avec la Terre. Voilà, c'est un petit peu notre objectif. Donc on est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches, de 10h à 19h, en visite individuelle, à 6€ par adulte ou 4€ pour les enfants de moins de 10 ans. Mais on organise également des visites guidées, tous les vendredis, samedis et dimanches à 15h. Alors ce n'est que sur réservation, puisqu'on est limité à un groupe de 9 personnes, moi étant le 10e pour faire la visite.
Oui.
Et donc là, on fait un tout nouveau format de visite guidée qui est inédit par rapport à notre début d'ouverture. C'est-à-dire qu'on commence la visite guidée par les prairies qui sont autour du château. C'est-à-dire qu'on reprend les chemins creux qui ont été aménagés au 18e siècle. On traverse ces prairies qui ont des très beaux arbres, etc. Et du coup, on va découvrir des points de vue sur la maison qui sont tout à fait inhabituels. Et là, je dirais qu'on pourrait presque mesurer la notion d'observatoire de la nature telle qu'est qualifiée Carneville au 18e siècle. Ensuite, on va rentrer dans le parc paysager, dans le tout bas du parc. On va commencer par l'étang et puis on va faire une ascension jusqu'au château. Mmh. Et là, lorsqu'on arrive au pied du château, on fait un petit point sur le projet aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, le château, lui, est en cours de restauration. D'ailleurs, en ce moment, c'est une phase qui est très intéressante à regarder puisqu'on a retiré toutes les bâches des échafaudages. Donc, tout le travail des ouvriers, que ce soit maçon ou charpentier, est vraiment visible par tous. Et on profite en fait de ce grand chantier pour parler aussi bien de l'histoire de la maison que ce qu'on a envie de projeter pour son avenir.
Ah.
C'est-à-dire que toute l'équipe du château se mobilise pour voilà avoir un rythme de gestion et un rythme de partage de cette maison assez inédit. Et donc on profite de cette visite guidée pour en parler à tout le monde. Et pour se remettre de ces 1h45 de balade et presque 2 km de parcours, après on a une petite dégustation de produits du terroir, notamment avec le miel que l'on fait au château, le pain que l'on façonne également au château, du jus de pomme qui est fait par un ami, Christophe Bouvet, qui est à quelques kilomètres du château, et également des petits fromages de chèvre qui sont faits à 800 mètres du château par des jeunes, Samuel et Morgane Cochard, qui élèvent quelques chèvres des fossés et qui font un super fromage de chèvre.
Voilà, alors, vous nous verriez dans le studio, on a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est extraordinaire. Et après, j'ai cru comprendre aussi que vous faisiez du pain, c'est vrai?
Oui, effectivement, depuis maintenant 5 ans, on a remis la boulangerie du château en route et on fait plus de 4 tonnes de pain par an. Donc c'est Clotilde Jung, la boulangère titulaire du domaine, qui le façonne, qui le pétrit. Alors, elle n'est pas que boulangère d'ailleurs, elle est paysanne boulangère, c'est-à-dire qu'elle sème elle-même une partie de son blé, qu'elle récolte, qu'elle fait moudre, et ensuite qu'elle façonne, puis qu'elle vend à travers son pain. C'est-à-dire qu'elle maîtrise toute la chaîne de production, du semis du blé jusqu'à sa consommation en pain.
Voilà. Oui,
en fait, c'est toute cette pédagogie et ce circuit court, alors qui peut paraître être un terme extrêmement à la mode en ce moment, mais qui est très profond, hein, qui est, je dirais, plus profond et plus essentiel encore que simplement un terme à la mode. C'est-à-dire qu'il y a tout sur place pour être autonome et pour vivre bien, et en respect avec ce qui nous entoure. Et donc ce sont toutes ces dynamiques qu'on essaie de développer, de partager et de faire goûter aussi, puisque bien sûr c'est bien d'en parler, mais de le goûter c'est quand même encore mieux.
Oui, ça va, on va venir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le loto du patrimoine? Vous êtes concerné, c'est ça?
Oui, alors on a eu, comme je dirais souvent à Carneville, on a une belle étoile. On ne sait pas encore dans quelle galaxie, mais on a une belle étoile. On découvre de sacrées embûches dans ce projet, notamment la découverte de la Mérule, qui attaque plus de 1000 mètres carrés du logis principal. Mais en parallèle de ça, on a eu la chance d'être élu en 2018 dans le cadre de la mission patrimoine portée par Stéphane Bern et la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Et donc on a été élu en 2018 monument emblématique de région Normandie, ce qui nous a permis d'avoir un soutien financier de 490 000 euros. Vraiment une somme extrêmement importante. Alors dans un budget de travaux qui lui s'inscrit dans une enveloppe de 2 millions d'euros. Mais c'est vraiment un apport financier qui nous a permis de lancer le début du chantier. Et ça a été primordial. Et quelque chose qui est important pour moi, alors directement pour Carneville en 2018. Mais en tant que passionné du patrimoine, il faut bien savoir que cette mission patrimoine se renouvelle tous les ans. Et aujourd'hui, avec tous les voilà ce qu'on connaît, le contexte un petit peu houleux de la crise sanitaire, il faut bien savoir que en 2020, il y a également une mission patrimoine. Et ça, c'est un message que j'envoie à tout passionné du patrimoine. Pour Carneville, je peux vous dire de l'intérieur que ça a été salvateur. Et n'oubliez pas qu'il y a énormément de patrimoine en France. C'est notre chance, mais c'est aussi notre responsabilité. On est tous, je dirais, responsables de ça, puisqu'on en est tous héritiers. Et n'oublions pas que cette année, il y a une mission patrimoine. Et moi, je peux vous dire que j'achèterai des tickets de loto pour soutenir les monuments qui sont sélectionnés en 2020.
Écoutez, Guillaume, avant de nous quitter, je voudrais que vous nous rappeliez bien le lieu, les dates, les horaires.
Alors, vous êtes tous les bienvenus au château de Carneville. On se situe entre Cherbourg et la Pointe de Barfleur, dans le Val-de-Serre, tout au bout du Cotentin. On est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h. Et on organise également des visites guidées ces mêmes jours à 15h sur réservation. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site www.chateaudecarneville.fr.
Oui, c'est vrai, on trouve tout sur votre site. Un grand merci, Guillaume, pour nous avoir accompagnés dans cette préparation de visite et on vous dit à bientôt.
Ben, merci à vous, Anne-Marie, et merci au studio d'RCF. À très bientôt.